Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Michel.
Bonsoir Caroline. Bonsoir. Ravi de vous re-entendre.
Ah, on s'est déjà parlé ?
Oui, le 25 novembre 2020.
Ouh, c'était très précis, d'accord. Et qu'est-ce qu'on s'était dit alors, le 25 novembre 2020 ?
Eh bien, j'étais sur le point de rompre. J'avais dans l'idée de rompre parce que j'arrivais. Il y avait trop de conflits avec ma compagne.
Oui, d'accord.
J'avais un cancer. J'apprenais que j'avais un cancer de la prostate.
Ah oui. D'accord.
J'étais dans un état déplorable parce que j'avais peur de repartir en dépression.
Oui.
C'est à cause de conflits permanents.
Ça a toujours, depuis longtemps, avec votre compagne.
Avec ma compagne, ouais. Ça dure depuis longtemps. On a rompu pendant un an. Et on a repris, on a été malheureux tous les deux.
Pendant cette année, vous étiez malheureux l'un sans l'autre.
Ouais, moi j'étais malheureux, elle aussi. Et pourtant, j'étais dans les îles. J'étais là-bas dans les îles, en Martinique, Guadeloupe.
Et ah, non, vous étiez parti, oui, mais malgré tout, ouais. C'est ça, vous étiez mal. Donc, vous avez décidé de reprendre la vie commune.
Oui, et voilà, et puis ça s'est reparti.
Et vous êtes reparti dans les conflits.
On est reparti dans les conflits, oui.
Comment allez-vous avant qu'on en parle? Puisqu'il y a un an, vous m'appeliez, on venait de vous annoncer, de découvrir donc, un cancer de la prostate. Ouais. Comment ça va, plus d'un an et demi? Vous allez bien aujourd'hui?
Oui, ça va bien. J'ai mon taux de PSA qui est revenu à zéro.
Ah ben, c'est formidable.
Alors, le cancer de la prostate, c'est vrai qu'on se fait un monde. Quand on vous dit, vous allez avoir des rayons, 40 séances de rayons, on se dit, mais vous allez être fatigué, Mais non, pas du tout. Ce n'est rien du tout un cancer de la prostate à soigner. On ne souffre pas. On ne souffre pas, on n'a aucune souffrance. La souffrance, elle n'est pas là. Pour moi, la souffrance a été ma libido, que j'ai perdu ma libido. Ça, c'est une grande souffrance. Oui. Mais par contre, le cancer lui-même ne vous fait pas souffrir.
Quand vous dites que vous avez perdu votre libido, c'est-à-dire, c'était le désir était là ou
Le désir n'est plus là.
Le désir n'est plus là.
Non, mais l'érection peut.
L'érection est possible, était restée possible.
L'érection possible, je suis au conseil, vous m'aviez dit, allez, n'hésitez pas à demander à votre urologue des cachets, des trucs. Il m'a donné ce qu'il fallait, et ça va.
Oui, d'accord.
Ça va, on peut encore avoir des rapports.
Oui.
Mais il n'y a plus la fin.
Eh oui. C'est ça, mais peut-être parce que les traitements quand même que vous aviez, la fatigue, l'angoisse aussi, pour le coup, jouaient sur le désir. Vous savez, le désir, c'est fragile. Et soumis à plein de choses extérieures. Vous savez, parfois, du stress dans le travail, on a moins de désir. Donc là, c'est quand même un gros stress. C'est plus d'apprendre qu'on a un cancer. Même si, vous dites, ça ne vous faisait pas souffrir physiquement, mais moralement.
Non. Le cancer lui-même.
Oui.
Moralement, pas tellement. Non. Je vous dis, la grande souffrance, c'est d'avoir perdu ma libido.
Mais du jour au lendemain?
On n'a plus d'envie, quoi. L'envie, elle vient que quand on commence les préparations.
D'accord.
Enfin, c'est même pas l'envie, c'est l'érection qui commence. Il faut commencer les préparations. Oui. Et avec les cachets, on arrive à avoir une érection qui dure à peu près potable.
D'accord.
Et donc, on peut satisfaire sa compagne.
Mais vous étiez au fond assez extérieur, quoi. Vous regardiez, enfin, si on peut dire, oui, c'était mécanique, mais il n'y avait plus l'élan.
Voilà, c'est
la
ça.
Fin a, dont vous parlez.
Ouais, on n'a plus la fin, non.
Mais ça, c'est quand
plus,
même.
On n'a plus d'orgasme.
Ah, il n'y a plus d'orgasme aussi.
Ah non, il n'y a plus d'orgasme.
Et oui, il n'y a plus
d'orgasme. Enfin, pour moi, je ne sais pas les autres comment ça peut aller, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a plus de rapport, il prend un cancer de la prostate, pour lui, c'est rien du tout.
D'apprendre qu'on a un cancer, mais évidemment ça touche, je comprends, oui. Oui, quand vous dites la fin, c'est-à-dire que j'avais compris la fin FAIM, c'est-à-dire que vous liez au désir. Non, alors c'est ça qui vous coupe aussi l'envie de recommencer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la jouissance.
Il n'y a pas la jouissance.
Ben oui.
Ça c'est dur.
Ben oui, bien sûr. Bien sûr.
Mais bon, Il faut bien se dire une chose, c'est que on est là et puis on l'a encore quand même. On a quand même du plaisir. Hein. On a oui, quand même le plaisir de. Ça. On a encore le plaisir de donner du plaisir. On oui, a encore le plaisir de donner le plaisir.
Oui, bien sûr.
Et ça, c'est un plaisir.
Bien sûr.
Pour moi, tout va.
Oui, oui, je comprends. Mais oui, bien sûr. Mmh. Ça participe, évidemment.
Voilà.
Oui. Donc, malgré tout ça, malgré ces conflits dans votre couple, vous aviez une vie intime, riche.
Enfin, riche, très riche, oui, oui, très riche.
Ça
depuis 30 ans.
Ah oui, d'accord.
Donc depuis ça... 30 ans et pratiquement tous les 3 fois par semaine, peut-être même 4 fois par semaine.
Ah,
on n'a jamais on a toujours... On est toujours envie de ça. C'est beau. C'est vrai que c'est peut-être rare à cet âge-là, mais...
Oh, c'est oui, oui, c'est rare. Oui. C'est rare parce que, en général, bon, le désir quand même, et enfin, au bout de. Le désir, on dit, se nourrit de, aussi beaucoup de nouveautés, de.
Voilà, c'est ça,
ouais. Et là, avoir une telle entente physique, ah, ouais, depuis 30 ans, bah, au fond, ça permet de supporter bien des conflits, Michel.
Mais oui, d'accord. Eh, oui. Je suis d'accord avec vous. Oui, c'est vrai. Ben oui, heureusement. Mais de toute façon, on n'aurait pas eu ça en tant qu'on serait séparés.
Oui, c'est ça. Il y avait.
Parce que même maintenant, avec le cancer, on arrive à faire pareil.
Oui, oui, c'est ça. Même, c'est ça. Vous arrivez. Et elle, pour le coup, le désir de chez votre compagne est toujours là. Elle vous désire toujours autant.
C'est ça. Et puis, malgré ça, on a toujours des conflits qui nous pourrissent la vie.
Mais alors, sur quoi portent vos conflits essentiellement ? Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent ?
C'est bizarre. Des thèmes, non. Ça peut.
Des
non,
sujets mais... qui sont conflictuels, quoi, qui reviennent un peu sur le tapis.
Vous m'aviez dit, je me rappelle, quand vous m'aviez conseillé de ne pas rompre. Parce qu'il y avait le cancer, vous aviez dit...
Je me
dit,
souviens de vous. Effectivement, parce que vous étiez quand même sous le... Et on peut le comprendre,
j'étais
sous le choc.
J'étais à deux doigts de la grosse dépression. Je la sentais venir, mais alors d'une façon, parce que j'en avais déjà fait une de la même façon.
Oui.
Je pleurais sans arrêt. Je pouvais pas donner... Je pleurais sans arrêt. Et je me suis dit non, mais il faut que je fasse quelque chose. Et puis c'est comme ça que j'ai... Un soir, j'ai écouté RTL et je vous ai entendu, vous... Mais je me suis dit, mais cette femme, il faut que je l'appelle. C'est elle qui va me donner un bon conseil. Et vous m'avez donné ce conseil. Et je ne regrette pas d'avoir vous avoir écouté. Parce que je me suis dit, elle a raison. Et puis pour me donner raison encore plus, c'est qu'au matin, quand je vous ai appelé, je suis sorti dans ma cour et il y avait un magnifique arc-en-ciel.
Ah oui.
À 25 novembre.
Oui.
Je me suis dit, mais c'est un signe.
Oui, vous y avez vu un signe.
C'est un signe, ça veut dire, suis ton chemin, suis là. Je me suis dit, mais elle m'a donné une trace, elle m'a donné... Il faut que je suive ce qu'elle m'a dit.
La vie reprenait des couleurs. Oui, vous avez
voilà, et je me suis dit, j'ai pris ça pour un signe. Et au matin, je l'ai appelée et je lui ai dit, je veux rentrer à la maison. Et là, elle me répond, rentre à la maison, c'est un mauvais moment. Je t'embrasse, Émile aussi. Émile, c'est le chat.
C'est bien. Ah bon, le chat Émile. Et alors lui, il est au milieu des conflits, le chat Émile.
Il est au milieu des conflits.
Ils aiment pas ça, les chats. Hein.
C'est un chat persan qui est adorable.
Ah oui, ils sont adorables, les chats persans. Oui.
Voilà, et du fait, je suis rentré à la maison, mais je me suis dit, avant de rentrer, j'ai réfléchi pendant moins une journée, je me suis dit, mais il faut que je change quelque chose en moi. Et s'il y a des conflits, je vais essayer de changer moi.
Oui.
Et après, on verra. Et donc, je me suis dit, je vais être plus câlin, plus à l'attention, plus aidé, pas trop de, pas contrarié. J'ai évité de contrarier. Donc, je suis rentré vraiment dans de bonnes conditions et j'ai vu que ça apportait quelque chose à elle aussi.
Oui,
donc moi
sûr.
J'y ai gagné, elle y a gagné, mais depuis un certain temps je me dis mais pourquoi moi je lui fais des bisous dans le cou, pas sans arrêt mais une fois le matin, une fois l'après-midi je la caresse les hanches, je lui fais un petit bisou, mais jamais elle me fait ça, jamais, et je trouve ça bizarre.
Elle était tendre auparavant avec vous ou c'est elle avait un peu de mal
Non, elle a jamais été tendre. On peut pas dire qu'elle est caresse. Elle a pas de tendresse. Elle peut pas montrer sa tendresse. C'est ce qui est bizarre, c'est qu'une fois, ouais, je trouve bizarre quand même qu'une fois, elle a laissé un papier sur le bureau, elle l'a oublié, je pense, et puis avec une phrase, j'ai noté qui m'a un peu fait bizarre. Elle y avait marqué "Aimer, c'est donner à l'autre l'occasion de vous détruire." Et j'ai l'impression que elle a peur de montrer qu'elle aime. Elle veut pas le montrer. Que ce soit avec moi ou que c'est peut-être avec n'importe qui d'autre. Hein. Elle n'a pas envie de montrer qu'elle a du sentiment. C'est possible, ça ? Moi, je ne sais pas faire ça, mais elle, est-ce que c'est possible ?
Quand vous avez trouvé cette phrase posée sur le bureau, bien en évidence...
Oui, je ne sais pas si c'est un message.
Bah, non. On peut le penser. Non. Parce qu'elle est terrible, cette phrase. Aimer, c'est donner à l'autre l'occasion de détruire.
Ah oui, mais c'est ce que j'ai pensé comme vous.
Quelle image, quelle conception la relation et de l'amour. Finalement, l'amour, c'est dangereux.
Ben voilà, et c'est ce qu'elle pense, vraiment, je pense, parce que maintenant j'en suis persuadée.
Elle ne peut se donner pleinement à vous que dans l'acte sexuel. Là, elle est entièrement à vous, très présente. Là,
et ben voilà, vous avez, c'est bien ça, c'est comme ça que je le vois.
Mais le reste du temps...
Même pendant l'acte sexuel, elle ne va pas me donner de baisers, elle ne va pas me donner de caresses.
Oui.
Et moi, par contre, je fais que ça. Et elle est heureuse.
J'allais vous demander, est-ce qu'elle est heureuse quand ça lui plaît, elle ne vous repousse pas quand
Non, pas à ce moment-là.
Donc, elle a besoin, elle en a besoin au fond, même si elle ne sait pas faire. Mais elle en a besoin.
C'est ce que je comprends bien, oui.
C'est certainement lié à son histoire où elle n'en a peut-être pas assez reçu. On va continuer à se parler. C'est très intéressant ce que vous me dites là, Michel. Vous restez avec nous le temps des infos.
Bien sûr.
Et on se retrouve juste après. À tout de suite.
22h, minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous.
Parlons-nous, c'est votre moment chaque soir sur RTL. Au cœur de la nuit, vous partagez avec nous vos interrogations, vos soucis, vos joies, vos chagrins, toutes ces pensées intimes qu'il n'est pas toujours facile de confier à ses proches. Alors je suis là pour vous, à votre écoute, et je vous propose mon éclairage. Pour me parler, c'est très simple, je vous invite à appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11. C'est un numéro non surtaxé. Et à tout moment, si une histoire vous interpelle, si vous souhaitez partager votre expérience avec nous ou témoigner de votre soutien, eh bien vous pouvez appeler ce numéro. Vous pouvez également nous envoyer un petit SMS au 64 900 en commençant votre message par les trois lettres d'RTL. 35 centimes par SMS, la page Facebook de notre émission RTL-Parlons-nous est également à votre disposition. Et on retrouve Michel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir patienté pendant les infos, Michel. Alors en fait, ça fait 30 ans que vous êtes avec votre compagne.
Ouais, 30 ans.
Vous avez une entente, une intimité physique exceptionnelle, hein, puisque vous dites au bout de 30 ans de vie commune, toujours, finalement des élans comme ça amoureux, malgré ce qui vous est arrivé il y a un an, l'annonce de ce cancer de la prostate, évidemment, qui a un petit peu changé la donne, puisque depuis, vous ne parvenez plus à la jouissance. Mais les résultats sont bons, vos dernières analyses sont bons. Et vous parliez des conflits dans votre couple, quand je vous demandais un petit peu les sujets qui revenaient sur le tapis, vous me dites, c'est pas vraiment des sujets, mais vous lui manifestez votre tendresse, et elle...
Jamais,
ne sait pas faire. Mais ne vous repousse pas quand vous allez vers elle.
Non, on ne peut pas dire qu'elle me repousse, non. Mais disons que oui, elle ne me repousse pas.
Ouais. Ça vous manque Vous aimeriez qu'elle...
Ah, beaucoup, énormément.
Mais finalement, ça fait 30 ans que vous êtes ensemble, donc est-ce que ça vous manque encore davantage aujourd'hui?
Voilà, et je m'en suis, mais c'est bizarre parce que je m'en aperçois au bout de 30 ans, comment ça se fait que je m'en suis, pourquoi
non,
j'ai rien
c'est
vu.
C'est pas que vous vous en apercevez, c'est peut-être que vous en avez davantage besoin.
Voilà, c'est ça. C'est depuis que j'ai eu mon cancer.
Oui.
Depuis que j'ai eu mon cancer, je pense que j'ai un manque. Oui, c'est ce que je manque, ce que je peux plus avoir, ben, j'ai ce manque qui se fait comme ça, oui.
C'est ça.
Oui.
C'est ça.
Ouais.
Comment d'ailleurs a-t-elle, enfin, elle a été avec vous, elle était présente, elle était prévenante pendant la maladie, pendant cette année.
Non, on peut pas dire, qu'elle a beaucoup d'empathie. Elle a pas beaucoup d'empathie, non. Mais malgré tout, mais ce que je comprends, on a des très bons moments tous ensemble cet hiver. On fait des randonnées en vélo. On a plein de choses dans les bois. Je vais dans les bois avec elle. Elle se perd, mais moi j'ai toujours ma boussole dans la tête et on se retrouve. Mais c'est vrai qu'on a des bons moments, des super moments. Et puis que on gâche tout pour, ou alors c'est moi qui dramatise tout. Peut-être que je devrais pas dramatiser comme ça des petits conflits. Mais elle ne sait jamais s'excuser. Oui. Elle a un ego surdimensionné, à mon avis.
Je vous comprends, c'est vrai que c'est embêtant, les personnes qui ne savent pas à un moment s'excuser. Ou dire, écoute, je suis désolée de t'avoir blessée.
Voilà, c'est pourtant si facile.
Ça permet, oui.
Enfin, c'est pas facile pour tout le monde. Justement.
Non, mais ça permet, ça évite que les choses s'accumulent. C'est important de savoir dire aussi cela.
Mais comment lui faire comprendre ça, j'y arrive pas, c'est impossible, je sais pas.
Peut-être en lui disant que depuis la maladie, depuis ce que vous venez de traverser, vous avez davantage besoin de tendresse au fond, de démonstration d'affection. Davantage besoin d'elle et d'élan comme ça qui vous rassure. Peut-être qu'elle pourrait le comprendre. Parce qu'elle tient à vous. Elle est.
Oui.
Ça, elle tient profondément à vous.
Mais moi aussi, je tiens profondément à elle. Mais je peux plus. J'ai comme l'impression que je peux plus continuer. Là, vraiment, je perds de l'appétit. J'ai plus de morale. Et je pense que elle en est la cause. Ah, c'est ça qui me fait peur. J'ai pas envie de la faire souffrir. J'ai pas envie de la faire souffrir parce que bon, elle vit chez moi, elle a pas beaucoup de moyens par rapport à moi qui a une bonne retraite. J'ai pas envie de et puis j'ai 70 ans, j'ai pas envie de remettre ça pas avec une autre. Je peux pas rester tout seul et franchement, je suis comme dans le même état que quand je vous ai appelé au mois de novembre 2020.
Vous avez peur de déprimer un peu, c'est ça?
Exactement. Et je suis au bord de la rupture. Je suis au bord de la rupture.
Oui.
Et puis j'arrive pas. Je me demande si je vais y arriver.
Elle n'est peut-être. Oui. Alors attention, parce que c'est pas dans les moments où on se sent comme ça, un peu sur le fil du rasoir, qu'il faut prendre des décisions importantes. Parce qu'on voit bien d'ailleurs, vous dites, vous n'avez pas envie de vous retrouver seule. Non, il faut prendre au sérieux cet état-là. Vous dites, vous avez moins d'appétit, vous sentez peut-être un peu plus triste, plus enfermé.
Voilà, exactement.
Il faut en parler de ça. Vous me dites que vous aviez traversé vous avez fait une grosse dépression.
Oui, j'ai fait une grosse dépression.
Il y avait eu un événement qui l'avait provoqué.
Bah pareil, ça n'allait pas. Je me suis dit, je peux plus continuer à vivre avec elle.
C'était il y a combien de temps?
C'était en 2006.
D'accord. Et comment aviez-vous été soigné à ce moment-là, en 2006?
J'ai eu des cachets.
Des antidépresseurs.
Voilà, c'est ça, ouais.
Que vous avez prescrit votre médecin généraliste.
Ouais.
Ça vous avait fait du bien?
Oui, beaucoup. Et puis j'avais écrit mon histoire. J'avais écrit. Tout ce qui m'avait contrarié, j'avais tout écrit.
Mmh.
Et une fois que j'ai eu tout fini d'écrire, j'ai relu et j'ai tout brûlé. Et ça m'a fait un bien fou.
Ah oui, je comprends.
On peut pas. C'est énorme le bien que ça peut faire d'écrire son histoire
Et
de la détruire.
Alors, en tout cas, c'est une façon de mettre à distance. Et une fois, comme si, oui, il y a le feu aussi qui symbolise quelque chose. Enfin, détruire, enfin le feu. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'imaginais que vous avez brûlé les feuillets, mais pas forcément. Vous avez pu simplement les déchirer. Mais oui, il y a quelque chose que vous avez expulsé de vous.
Voilà, c'est ça. Alors,
mais vous, quand je vous entends, vous avez un grand besoin de parler. Vous vous exprimez très bien. Vous pourriez voir votre médecin ou effectivement prendre un petit traitement à nouveau pour ne pas justement vous enfoncer, puisque vous connaissez un peu les signes avant-coureurs. Mais pourquoi vous n'iriez pas voir quelqu'un pour parler aussi? Demandez à votre médecin traitant les coordonnées d'un psychothérapeute. Ponctuellement, de temps en temps, voyez, je vous dis pas de vous lancer dans une analyse, mais ou écrire à nouveau. Mais en tout cas, vous exprimer.
Ah, c'est ce que je fais. Je me suis acheté un carnet et
vous écrivez à nouveau.
J'écris.
Elle le sait que vous écrivez, votre compagne?
Oui. Et oui. Et de ce fait-là, je lui ai acheté un livre, un grand, pour qu'elle écrive aussi. Et je lui ai dit, tu as certainement dû avoir un problème dans ton enfance pour avoir un ego démesuré comme ça.
Qu'est-ce qu'elle dit?
Alors, elle dit, non, moi, elle n'a jamais rien. De toute façon, elle se voit tout normal. Mais je sens très bien qu'elle a quelque chose qui ne va pas.
Mais vous êtes très différent. Vous, on sent que vous avez une capacité d'introspection qu'elle, n'a peut-être pas.
Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, c'est difficile de s'entendre.
Oui, forcément, quand vous êtes comme ça dans des états, on sent que vous êtes quelqu'un aussi qui vous parlez facilement de ce que vous éprouvez. Face à quelqu'un qui vous parlez d'ego, mais finalement qui a une... Qui ne sait pas se remettre en question. Elle ne sait pas s'excuser, elle ne sait pas... Donc... Évidemment, pour vous, c'est douloureux parce qu'à un moment, le dialogue est très difficile.
Très difficile. Elle a toujours raison sur
tout. C'est ça.
Toujours raison sur tout.
Oui, c'est pénible.
Moi, je sais reconnaître quand j'ai tort et je m'excuse. Elle, pour elle, c'est une impossibilité absolue.
Oui. Elle est un peu rigide sur ce plan-là.
C'est de l'ego démesuré.
Mais c'est une incapacité, au fond, elle ne peut pas se remettre en question. Et
ça vient de quoi? Ça vient de quoi?
Oh, ça, je ne peux pas vous répondre comme ça, ça vient de beaucoup de choses.
Je lui ai dit, écris ton histoire de.
Oui, mais elle n'a peut-être pas envie. Oui, mais.
Oui, c'est
vous,
ça, elle
vous,
a pas envie.
Vous l'invitez, elle n'a pas envie de se pencher là-dessus. Elle préfère ne pas s'y pencher. Oui, quand vous parlez de... Au fond, elle sait recevoir la tendresse, mais elle ne sait pas en donner. Il y a quelque chose... Ce n'est pas contre vous, c'est au fond dans sa personnalité. Il y a quelque chose...
C'est ça.
Elle ne sait pas prendre... Oui, elle s'occupe d'elle.
Elle s'occupe de elle. Une fois qu'elle s'est occupée d'elle, c'est bon.
Mais quand même, par rapport à la maladie, elle a été là pour vous? Comment était-elle là pour vous?
Ah mais je peux pas dire, c'est pas mon tempérament de me plaindre, jamais je vais me plaindre. Je vais souffrir, mais je vais souffrir seul, j'aime pas souffrir devant les autres. Donc je me suis jamais plaint, donc elle avait pas besoin de...
Oui, mais quand bien même, elle savait que vous reveniez de l'hôpital, elle prenait de vos nouvelles, est-ce que...
Oui,
vous,
quand même, oui.
Si vous n'étiez pas trop fatigué, oui.
Voilà, c'est bien, ça s'est bien passé et tout. Mais question de ça s'est bien passé. Mais c'est trop dommage, oui, c'est ça, alors...
Vous auriez envie d'être en ce moment plus, de plus de chaleur, de plus de démonstration, de plus...
C'est ça.
D'être un peu rassurée, parce que...
On ne peut pas y exiger, c'est pas possible.
Non, parce que ça, c'est... Plus vous allez être en demande, plus elle risque de se braquer. Parce que, au fond, c'est pas contre vous, elle ne sait pas faire... Mais elle vous apporte par ailleurs d'autres choses. Il y a cette... Et auparavant, là où vous vous rejoignez dans la sexualité, aujourd'hui, chez vous, il y a cette frustration qu'on peut comprendre. Et du coup, vous avez d'autant plus besoin d'élan, d'effusion, d'affection. Peut-être que ça, vous pourriez lui dire, après tout. Et elle peut... Oui. Elle, vous voyez, ça peut faire son chemin. Vous pouvez essayer. Mais en tout cas, par rapport à ce que vous ressentez, moins d'appétit, vous vous renfermez, vous êtes un peu plus triste, un peu plus... vous voyez, à songer de dire, au fond, au point de penser à nouveau à la rupture. Ça serait bien que vous voyiez votre médecin traitant et que vous lui en reparliez, que vous ayez un peu un petit traitement. Et je trouve, au vu de vos capacités à vous, à vous exprimer, à, ça serait dommage de pas avoir... Quelques séances pourraient vous aider, vous faire du bien, en plus de, des médicaments. Vraiment. D'accord. Il y a Joseph qui vient de prendre l'émission en cours et il regrette un peu parce qu'il dit « Je trouve votre histoire extraordinaire. C'est comme si la tendresse de votre compagne passe peut-être par le corps et votre incommunicabilité entretient malgré tout un désir étonnant. 30 ans, ce n'est pas rien. » Et il a raison, Joseph. Il y a presque quelque chose qui est un peu inversé. Souvent, vous savez, c'est une problématique qu'on retrouve plus souvent chez les hommes. La difficulté à exprimer la tendresse. Comme si... Pardon ?
J'arrête pas d'exprimer la mienne.
Oui, mais généralement, si vous voulez... beaucoup d'hommes ne peuvent se laisser aller à un élan tendre. Justement, dans l'acte sexuel, au moment avant, après, mais il y a la tendresse qui s'exprime à ce moment-là. Mais dans la construction aussi d'un homme, c'est compliqué. Enfin, je sais pas que la tendresse est compliquée, mais le courant sexuel, le courant tendre, si vous voulez, quand on sait que au fond, le premier amour s'adresse à la mère, il faut vraiment différencier ce qui appartient à la sphère de la tendresse et à la sphère du sexuel. Et parfois, cette problématique-là, quand elle n'est pas bien résolue, peut les suivre, y compris dans leur vie d'homme et dans leur vie de couple. Les femmes, en général, arrivent mieux à conjuguer, mais là encore, il n'y a que des exceptions. Or, finalement, c'est votre femme, vous, c'est comme si... c'est dans le corps qu'elle s'exprime. Dans les mots, elle a beaucoup plus de mal à faire. Mais c'est pas contre vous. Et je rejoins ce que dit Joseph, parce que il y a quand même un... C'est formidable ce désir qui circule entre vous. Et ce désir qui n'est pas qu'un désir sexuel, cet élan vers l'autre, cette complicité. Quand vous dites au fond, vous partez vous balader ensemble dans les bois, enfin, on sent que vous vivez des moments intenses. Et après 30 ans de vie commune...
Alors, c'est pour ça que je peux pas me décider à la quitter.
Oui, mais je vous comprends.
Ou alors je lui envoie un courrier, je dis, mais j'en ai marre, j'en ai assez de toi, tu peux plus. Je me mets en colère, j'en ai assez de toi. Oui. Tu pars, tu
qu'est-ce qu'elle
dit ? Quelqu'un. Ouais. Je suis en colère.
Oui, mais quand vous êtes parti, vous avez été très malheureux l'un sans l'autre.
Ouais, voilà.
Vous avez été très malheureux. Donc, actuellement, vous êtes malheureux. Ne vous rendez pas encore plus malheureux. Il faut déjà que vous vous retrouviez un peu, que vous sortiez de cet état un peu de déprime, et vous verrez après. Je pense que vous pourrez lui en parler, parce qu'elle tient énormément à vous, et elle peut entendre certaines choses. Et même si ce n'est pas naturel chez elle, elle peut se dire, oui, actuellement, il a besoin davantage, et elle vous le donner, parce qu'elle sait que c'est important. Voyez ? Vous arrivez au fond, bonhomme, là, à vous parler. Mais prenez rendez-vous avec votre médecin traitant, parlez-lui un peu de ce que vous ressentez et demandez-lui les coordonnées d'un thérapeute. Souvent, ils travaillent en réseau avec des psys.
D'accord.
Et je pense que ça pourrait vous faire du bien d'avoir un lieu pour dire cela.
Mais pour éviter un conflit, comment ? Pour éviter le conflit, c'est pourtant... Depuis,
je ne sais pas s'il faut l'éviter. En tout cas, actuellement, il vaut peut-être mieux l'éviter parce que ça vous rend malheureux. Vous pourrez en parler de ça.
Pourquoi ça me rend malheureux à ce point-là ? Mais c'est énorme.
Vous venez de traverser aussi une épreuve, hein, Michel, que vous dites, bon, le cancer, ça ne m'a pas fait souffrir. Pas physiquement et tant mieux, mais moralement, oui. Et puis, il y a aussi le fait que dans votre vie intime, dans votre vie sexuelle, qui était un moment très important, vous ne parvenez plus à la jouissance. Ce n'est pas rien, ça. Oui.
C'est pas étonnant aussi que vous soyez malheureux, et ça remet beaucoup de choses.
Et c'est pour ça que je pense que c'est important que vous ayez un accompagnement et peut-être d'ailleurs un thérapeute homme avec qui parler de tout ça. Ça serait bien, vraiment. Je vous le recommande. Bon courage.
C'est gentil.
Bon courage. Là,
je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, beaucoup.
Bonne soirée. Bonne soirée
et,
à vous.
Et vive RTL.
Merci. Au revoir.
RTL.
Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche.
Parlons-nous.